Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, l'émission est placée sous le signe de l'ombre et de la lumière. L'ombre, par exemple, dans laquelle se dissimulent les espions, thème du nouveau numéro de notre partenaire, le magazine Books. Et à l'occasion de ce hors-série spécialité, nous parlerons avec Baptiste Touvré d'un article passionnant consacré à John le Carré, maître incontestable du roman d'espionnage. Mais d'abord, place à notre invitée, la romancière allemande Anne Weber, un des rares auteurs à écrire à la fois dans sa langue maternelle et en français, mais surtout à se traduire, à l'image de son nouveau livre « Kyrio », publié au Seuil et qui a paru simultanément en Allemagne sous sa plume. Un récit de lumière où le personnage principal est un saint moderne, une figure rare à notre époque, mais qui nous fait un bien fou. Rencontre. Bonjour Anne Weber.
Bonjour.
Kyrio est un récit qui prend à contre-pied tous les codes littéraires, que ce soit dans la narration ou dans le fond, puisque pour commencer, vous choisissez de raconter l'histoire d'un personnage doux, bon, qui propage de la joie autour de lui et fait même des miracles à l'occasion. Et ce type de héros est très rare, vous le dites vous-même, les scientifiques, les cinéastes et les écrivains aiment explorer le mal et oublient le bien. Mais pas vous, Anne Weber, vous vouliez un sujet solaire donc ?
Oui, c'est une sorte de, enfin, c'est à la fois, c'est né un peu d'un agacement aussi, devant le fait que tant de gens sont, de romanciers en particulier, sont fascinés par le mal et par la perversion et par le côté démoniaque des êtres. Et j'ai trouvé que le bien était quelque chose à réhabiliter. Parce que je me suis rendu compte que le bien était en fait pour moi quelque chose de beaucoup plus fascinant que le mal. Parce que le mal s'explique toujours. Il y a toujours des raisons pour lesquelles quelqu'un agit mal. Mais pourquoi quelqu'un fait le bien? Alors ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui reste mystérieux. Et surtout, pourquoi quelqu'un continue à faire le bien alors que la religion chrétienne dans nos contrées a un petit peu, pas disparu, mais perdu de son importance. Personne ne croit plus qu'il va aller en enfer s'il agit mal. Mais pourtant, le bien continue à exister. Et c'est un mystère. Et c'est ce mystère que j'ai voulu explorer. Et par la même occasion, j'ai voulu arracher ce bien à l'ennui, à quoi il est généralement associé. On trouve le mal beaucoup plus intéressant et le bien un petit peu plan-plan, ennuyeux. Or, le bien tel que je me le représente et tel qu'il apparaît, je crois, dans le livre, n'est pas ennuyeux du tout.
Non, mais alors il peut être dangereux parce que on suit Kyrio enfant et puis adulte, et c'est vrai que son comportement peu ordinaire le met un peu à distance des autres, comme si la légèreté de son attitude était anormale, de même que sa propension à marcher sur les mains et à faire la roue, ce qui met le monde à l'envers, semble inquiéter, peut-être déranger. C'est ce que vous pensez ou c'est le côté fable de ce récit?
Il y a un côté fable, il y a un côté légende dans le récit. Ce n'est pas un récit platement réaliste, je dirais. Il y a un côté mystérieux dans le récit et qui se traduit par des faits qui ne sont pas tout à fait probables ou explicables ou terre à terre. Ça s'appuie en fait sur une forme littéraire très ancienne qui est la vie de saint, la légende de saint. Mais on vit au 21e siècle, c'est un peu une vie de saint entre guillemets, même entre plusieurs guillemets peut-être. Mais le livre suit quand même la trame de la vie de saint traditionnelle, qui raconte la vie du saint par épisode. Oui. Ça commence avant sa naissance déjà, par il est annoncé là, et puis il fait des miracles, etc. Donc, comme c'est un homme du 21e siècle, ça se passe pas tout à fait comme dans la vie traditionnelle, dans la vie de saint traditionnel, mais on entend l'écho de ça parce que il a cette caractéristique qui est que partout où il passe, les choses ont tendance à s'arranger.
Et on aimerait bien le croiser d'ailleurs.
On aimerait bien le croiser plus souvent. Mais malheureusement, ces apparitions sont un peu imprévisibles et plutôt rares. Mais quand il apparaît, ce n'est pas d'ailleurs qu'il fait exprès de faire le bien, comme c'est le cas des saints ou des gens d'église. Lui, il fait le bien, on dirait, en passant comme ça, mais sans le vouloir et même souvent sans le savoir, sans s'en rendre compte. Il le fait sans y penser, sans aucune envie de reconnaissance ni rien. Et il me semble que c'est presque une forme plus pure du bien.
On fait la connaissance de Kyrio un peu avant sa naissance, comme vous le disiez, par la voix de sa mère. Et ensuite, d'autres narrateurs vont prendre le relais. Et très vite, d'ailleurs, on comprend à travers ce qu'on lit que Kyrio a vraiment un comportement différent. D'abord, il ne parlera pas jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ensuite, ses premiers mots sont pour dire qu'il veut jouer de la flûte. C'est une autre forme de communication.
Oui, exactement. Il trouve des façons de communiquer avec les êtres et avec les choses d'ailleurs, puisqu'il parle. Alors là, il parle quand même. Il s'adresse à des objets aussi ou à des oiseaux. Là, j'ai pensé un petit peu à Saint François d'Assise, qui lui s'adressait aux oiseaux et aux animaux et à la lune et au soleil et qui leur parlait comme si c'était des frères et des sœurs.
Kyrio, donc, on vient de le comprendre avec vous, Anne Weber, c'est vraiment un roman recto verso par son thème et aussi par sa langue. Mais je voudrais revenir justement sur cette question de langue parce que vous avez de très jolies formules comme mourir de rire que vous transformez en vivre de rire. De même que vous faites un jeu de mots avec sourire et souris, l'animal. Et je me demandais, est-ce que ces expressions que je viens de citer, ont des équivalents en allemand ou pas? Et comment est-ce que vous les avez traduites, vous, dans l'autre version, puisque vous avez écrit les deux livres?
Il y a l'expression « mourir de rire » en allemand, oui.
Mais « vivre de rire », ça n'existe
non,
pas mais en français. Est-ce que ça existe en allemand?
Cette expression existe en allemand, « mourir de rire », et je l'ai inversée comme je l'ai fait en français.
Oui, ça veut dire que ça n'existe dans aucune des deux langues.
Non.
Et c'est vous qui inventez ça.
Oui.
C'est vous qui retournez, qui mettez le monde à l'envers, la langue à l'envers.
Oui, mais ça correspond, dans le cas de Kyrio, ça correspond vraiment aussi au personnage qui a cette tendance à renverser les choses, à mettre les choses à l'envers et à marcher sur les mains. Mais ça vient aussi, ça, de la tradition du saint et de Saint François, puisque Saint François, à un moment donné, s'est mis à voir les choses à l'envers, c'est-à-dire que à renverser les valeurs aussi. La richesse devenait la pauvreté, la faiblesse devient la force, etc. Et j'ai simplement poussé les choses un petit peu plus loin et j'ai fait en sorte que Kyrio concrètement, réellement, renverse les choses et marche donc sur la tête.
Donc tout l'enjeu du livre pour vous, Anne Weber, c'était que la forme soit en adhésion avec le fond. C'est-à-dire que racontant une autre vision du monde, un monde à l'envers où la bonté ou tout ce qu'on vient de dire était des vraies valeurs, il fallait que l'écriture soit aussi renversée.
Oui, il fallait tout renverser parce qu'on ne vit pas dans un monde, comme vous le savez, où le bien règne en maître.
Donc j'imagine que c'est un défi stylistique pour vous qui doit être passionnant.
Oui, c'était un défi dans tous les sens du terme.
Et quand je disais tout à l'heure que vous aviez écrit deux livres, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez écrit deux livres ou pas?
Oui, mais deux livres assez proches quand même, disons. Je n'ai pas écrit deux livres complètement différents. Je me permets beaucoup plus de liberté quand je me traduis moi-même, quand je fais moi-même cette deuxième version, que quand je traduis un autre auteur, ce qui m'arrive aussi assez souvent. On doit être très fidèle quand on traduit quelqu'un d'autre, alors que là, je peux tout à fait m'éloigner, mais c'est jamais un livre tout à fait différent quand même.
Parce que ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'effectivement, vous êtes traductrice à la fois de l'allemand en français et du français en allemand. Et pendant longtemps, vous avez commencé par écrire en français, qui n'est donc pas votre langue maternelle, puis à vous traduire en allemand. Et maintenant, vous faites l'inverse.
Oui.
Donc, Kyrio, vous l'avez d'abord écrit en allemand et ensuite traduit en français.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez à nouveau renversé ce cycle?
Je l'ai fait sans, c'était pas une décision consciente. C'est après coup, a posteriori, que j'essaie de me l'expliquer. Et je me l'explique par le fait que j'avais sans doute besoin d'un détour par une langue étrangère, par le français, pour me rapprocher de ma langue maternelle. Parce qu'il faut beaucoup de distance quand on écrit, de la prose surtout, surtout quand on commence à écrire. Et le fait d'écrire dans une langue étrangère est une façon tout à fait radicale de prendre de la distance.
Et là, vous avez moins besoin de distance, donc?
C'est pas que j'ai moins besoin de distance, c'est que il y a quelque chose de cette distance que j'ai forcément avec la langue française, puisque ce n'est pas ma langue maternelle, que j'ai transféré à mon rapport à la langue allemande, qui est ma langue maternelle. C'est cette façon de pouvoir regarder les mots de l'extérieur. Parce que quand on écrit ou quand on parle dans sa langue maternelle, il y a tellement d'automatismes et de choses à quoi on ne pense pas, qui vous échappent comme ça, qui, votre langue maternelle, vous ne faites qu'un avec elle. Alors que, une langue étrangère, vous êtes sans arrêt obligé de réfléchir à ce que vous allez dire, à ce que ça, par exemple, vous entendez beaucoup plus le sens propre des expressions figurées. Mourir de rire, par exemple, vous ne pensez pas mourir vraiment. Enfin, le sens du mot mourir. Alors que quand ce n'est pas votre langue maternelle, vous entendez vraiment mourir. Ou vous entendez ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous voyez la cuillère et vous voyez le dos, le côté rond de la cuillère. Et tout est comme ça.
Vous citez les frères Grimm, vous citez Samuel Beckett. Alors effectivement, les frères Grimm, ça nous rappelle que c'est un peu un conte, que c'est un peu absurde. Et Beckett, c'est vraiment un univers très particulier, d'autant plus que lui aussi écrivait dans une autre langue que sa langue maternelle. En l'occurrence, il écrivait en français alors qu'il était irlandais. Vous sentez une proximité avec Samuel Beckett?
Alors là, c'est comme si si vous me demandiez si je sens une proximité avec Dieu justement ou avec. Enfin, oui, c'est. Je n'ai pas de. Il faut laisser au lecteur la liberté d'imaginer, de créer des associations.
C'est vrai que vous laissez beaucoup de liberté au lecteur parce qu'à un moment, Kyrio disparaît, mais on ne sait pas où. Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il vit une autre vie? C'est comme si vous nous laissiez les clés de la compréhension, comme si vous nous laissiez, nous, lecteurs, décider de la réalité de ce qu'on vient de lire. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Est-ce qu'il est bon? C'est ça aussi votre façon d'écrire, c'est de transmettre un questionnement au lecteur plus qu'une réponse?
Oui, c'est pas une fin ouverte, c'est une fin ouverte à plusieurs interprétations. Est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il disparaît miraculeusement parce qu'il est dans une situation dangereuse à ce moment-là? Est-ce qu'il s'en échappe? C'est pas tout à fait clair, mais c'est pas tout à fait clair aussi parce que j'aime bien finir sur une lumière, sur une porte pas tout à fait fermée, comme dans la chanson de Leonard Cohen. That's where the light comes in. That's how the light gets in. C'est dans la faille où s'introduit la lumière.
Très bien, alors on va finir sur ce mot de lumière. Merci beaucoup Anne Weber.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce roman, Kyrio, qui a paru en France aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Bonjour Baptiste Touvray.
Bonjour.
Comme je l'annonçais dans le sommaire de l'émission, nous allons feuilleter avec vous ce nouveau numéro de Books, hors série spécialité absolument passionnant, consacré aux espions d'hier et d'aujourd'hui, à travers évidemment des thèmes récurrents tels que les transfuges, la cybersurveillance, les taupes, le KGB et la CIA, mais à travers aussi des portraits d'hommes tout à fait fascinants, Kim Philby, évidemment, Graham Greene, on pourrait en citer
des dizaines, centaines presque. Oui.
On pourrait en parler pendant des heures de ce numéro qui vraiment se lit de la première à la dernière page comme un roman policier. Mais littérature oblige, évidemment, on va se concentrer avec vous aujourd'hui, Baptiste, sur un des auteurs les plus emblématiques, John le Carré.
C'est l'auteur de romans d'espionnage le plus célèbre et le plus vendu au monde.
Dont on savait effectivement qu'il avait été espion, Mais ce qui est passionnant dans cet article signé Michel André, spécialement pour le magazine Books et à l'occasion d'une biographie qui a paru en Angleterre consacrée à John le Carré, pas encore traduite en France, on l'attend avec impatience, et elle est signée d'Adam Sisman. Ce qui est fascinant dans cet article, disais-je, c'est que John le Carré a été espion, certes, mais en fait, sa vie apparaît dans ses romans de façon exceptionnelle. Et plus qu'un espion écrivain, c'est un écrivain qui a été espion, et ce n'est pas la même chose.
Oui, exactement. Il le répète souvent, il dit « je suis pas un espion qui est devenu un écrivain, je suis un écrivain qui, à un moment de sa vie, est devenu espion ». Il parle très peu de sa vie d'espion, hein. C'est vraiment un sujet sur lequel il reste discret. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas été très longue. Il a 85 ans, et en fait, mis bout à bout, toutes ces années d'espionnage, c'est 5 ans. Il a été au MI5, c'est les services intérieurs, le contre-espionnage britannique, mais aussi au MI6, qui est le service de renseignement proprement dit. Il était à ce moment-là sous couverture diplomatique en Allemagne. Parce qu'il parle allemand, il a étudié la littérature allemande.
Et c'est là qu'il a été recruté d'ailleurs, c'est parce qu'il était germaniste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jeune étudiant.
Oui, il a un accent parfait, il a une oreille en fait extraordinaire, et c'est quelque chose qui se retrouve dans ses romans. Il est capable de reproduire avec une fidélité incroyable les différents accents anglais. On sait que c'est très important, selon son origine sociale, on a des accents différents en Angleterre, il les reproduit extraordinairement. D'ailleurs, il montre très bien dans ses romans les différences qui existent au sein des services secrets anglais entre le MI5, qui est peuplé de technocrates issus des couches moyennes inférieures, et le MI6, beaucoup plus aristocratique, beaucoup plus distingué. C'est quelque chose qu'il reproduit très bien. Il avait, paraît-il, l'habitude, à un moment donné, de parler anglais avec un accent allemand. Il affectait ça, c'était assez amusant.
Donc, John le Carré, rappelons-le, c'est un auteur très célèbre qui a sans doute été révélé par La Taupe, mais aussi L'Espion qui venait du froid, Le Tailleur de Panama, et j'en passe. Un certain nombre de ses romans a été adapté au cinéma, ce qui a évidemment accru sa notoriété. Mais pour revenir à cet article signé Michel André, ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'explique, et évidemment c'est ce qu'on découvre dans la biographie, c'est qu'il explique que le mensonge, la duperie, la duplicité ne sont pas forcément des traits de caractère qu'il a acquis en devenant espion, mais qu'il avait déjà en lui, que c'était lié à son enfance, oui, et particulièrement à sa relation avec son père.
Oui, absolument. Il avait un père très fantasque, un père qui était quelqu'un de très cordial, de chaleureux, mais qui en même temps était un escroc, quelqu'un qui accumulait les dettes, qui un jour pouvait se retrouver aux courses hippiques parmi la société la plus huppée, et le lendemain en prison pour dette. Donc c'est quelqu'un qui très tôt lui a appris à dissimuler et à espionner, parce qu'il fallait l'espionner, le surveiller lui, mais aussi espionner de temps en temps pour lui. Avoir eu un père comme ça, c'est un père aussi qui, une fois que son fils est devenu célèbre, s'amusait à dédicacer les romans de son fils, à les envoyer à ses connaissances en les signant par le père de l'écrivain, et qui aussi a tenté des procès en diffamation à John le Carré, parce que dans un documentaire, il ne disait pas qu'il lui devait tout. Voilà, c'est ce genre de personnage. C'est un personnage que la mère de John le Carré a quitté très tôt. En fait, à 5 ans, John le Carré n'a plus eu de mère. Il ne l'a retrouvée qu'à 23 ans, ce qui fait que autant il est très bon sur les personnages masculins, autant sur les personnages féminins, pendant longtemps en tout cas, il était beaucoup plus faible. C'était des personnages beaucoup moins fouillés.
En tout cas, il a encore beaucoup d'énergie, parce que même reclus dans sa maison en Cornouailles, il écrit tous les jours, à la main, il jette beaucoup, c'est ce qu'on apprend dans l'article. Et puis, excellente nouvelle, il y a un nouveau roman qui est annoncé à la rentrée, A Legacy of Spies, pas encore traduit en français, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, John le Carré, un destin passionnant à découvrir à travers cet article signé Michel André et qui paraît dans ce numéro de Books spécialité espion. Merci beaucoup Baptiste.
Merci à vous.